Proverbe chapitre 4 et verset 18. Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat augmente jusqu'à ce que le jour soit dans sa perfection. Bonjour à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est étudier un sujet qui a été cruellement ignoré et qui est cruellement ignoré et négligé dans cette époque de l'adventisme moderne. Et ce sujet, ce n'est autre que le sujet de la perfection. Parce que si nous désirons appartenir à ce peuple du troisième ange, alors nous sommes appelés à une certaine condition de notre âme. On peut voir cette condition qui est clairement présentée dans le passage d'Apocalypse chapitre 14. Nous connaissons bien ce passage. Nous savons que il parle des messages des trois anges. Donc je ne vais pas tenter d'expliquer quelle est l'origine de ces messages, comment ces messages ont été compris et comment ces messages sont directement applicables à nous aujourd'hui. Ce n'est pas ce que je vais essayer de faire maintenant. Mais ce que l'on veut faire ensemble, c'est simplement lire ce fameux verset 12. Apocalypse, chapitre 14 et verset 12. Parce que c'est la condition à laquelle nous sommes appelés si nous voulons faire partie, appartenir à ce peuple du troisième ange. Il est écrit. D'abord, l'ange vient et déclare quel est le sort qui attend ceux qui prennent la marque de la bête. Nous connaissons cela. Nous savons que la bête, ce n'est autre que la papauté. Que sa marque, ce n'est autre que prendre consciemment et d'épouser consciemment à la lumière des faits et des preuves de la parole de Dieu le dimanche comme étant le jour de repos du Seigneur. C'est sa marque, la marque de son autorité. La marque de l'autorité qu'elle possède de changer, telle qu'elle le dit elle-même par ses émissaires, de changer le jour de repos du samedi au dimanche. Donc c'est ce que le troisième ange dit, mais il dit autre chose. Parce qu'il avertit sur le sort de la personne qui fait cela en connaissance de cause, mais il dit aussi autre chose. Il dit, c'est ici, en ce temps-là, en contraste avec ce danger de devenir et d'adopter et d'accepter la marque de la bête, en ce temps-là, c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous avez une condition ici. Si vous lisez de manière intelligente, vous comprenez que il y a ici des personnes, bon, d'une part, ils ont de la patience, mais ce n'est pas tout. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc il ne garde pas les commandements de Dieu de n'importe quelle façon, il les garde d'une telle manière qu'il peut être dit à propos d'eux, au sujet d'eux, qu'ils ont, qu'ils gardent la foi même de Jésus-Christ. Et donc on se pose naturellement la question, qui sont ces personnes? Qui sont ces personnes? L'apôtre Jean, le révélateur ici, les voit en vision, il dit, ce sont ici là, ceux, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est un peuple tout particulier, ces personnes-là. Et nous voyons qui est ce peuple particulier vers lequel il dirige notre attention dans le verset 12. Nous voyons quel est ce peuple dans le verset 1 jusqu'à 5. Lisez avec moi verset 1. Je regardais ensuite, nous dit-il, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son père écrit sur leur front. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Donc qui sont ces personnes? Ce sont les 144 000. Et quelle est leur condition, telle qu'ils les voient sur la montagne avec l'agneau, ayant remporté la victoire? Parce qu'ils chantent, comme c'est écrit, un cantique que nul d'autre que eux peut apprendre, comme on le voit dans le chapitre 15. Là, ils sont là sur cette mer de verre mêlée de feu, et ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Donc ce sont les mêmes personnes, et l'apôtre Jean les voit ayant obtenu la victoire, et leur condition finale est qu'il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Et comment est-ce que cela est exprimé aussi? Il le dit, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici la patience des saints. Donc nous ne sommes pas laissés dans l'ignorance, pas laissés dans l'obscurité quant à la condition à laquelle Dieu appelle ce peuple. Et Dieu nous appelle. Parce que nous gardons le sabbat, nous croyons, nous épousons ce message de l'adventisme du septième jour, qui n'est autre que le message du troisième ange. Et c'est un peuple. C'est un message, mais c'est un peuple. Et ce peuple nous est présenté à la fin comme ayant obtenu la victoire et comme étant sans tache devant le trône de Dieu. On ne peut pas échapper à ces réalités claires. Ils sont sans faute, sans fraude dans leur bouche. Et si vous allez avec moi, dans 1 Pierre, chapitre 2, et verset 21. Parce que ils suivent l'agneau où qu'il aille, rappelez-vous. Et ils gardent la foi de Jésus. Et ici, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21, nous lisons, car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. C'est lui d'abord qui est comme ça. Et parce que eux, ce peuple, ils suivent l'agneau où qu'il aille, ils imitent celui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. Donc nous voyons que c'était la condition de Jésus et c'est la condition de ce peuple qui nous est représenté comme ayant obtenu la victoire. Et vous allez maintenant avec moi dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 et verset 48. Et c'est bel et bien la condition spirituelle à laquelle Jésus nous a appelés. Nous lisons ces paroles. Il dit: soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Parfait, sans fraude, dans la bouche et sans tache devant le trône de Dieu. Nous sommes appelés à la perfection. Et je ne m'attarderai pas sur le fait que ce soit un sujet tabou. Tout est tabou aujourd'hui vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc, nous voulons surtout nous concentrer sur le fait que c'est bel et bien l'appel de Jésus à ses disciples. Et c'est bel et bien la condition de ce peuple du troisième ange tel que nous le voyons à la fin. Après qu'ils aient traversé leur épreuve et qu'ils en soient sortis vainqueurs. Donc vous voyez, Jésus il dit « Soyez donc parfaits » et à la fin, vous voyez ce peuple qui suit Jésus partout où il va, qui imite chacun des traits de son caractère et qui se retrouve à la fin comme lui, n'ayant aucune fraude dans leur bouche, exactement de la même manière et avec les mêmes mots qui décrivent notre Seigneur Jésus. Et pour élargir, j'aimerais lire cette déclaration de l'esprit de prophétie dans le livre Puissance de la grâce à la page 231 au paragraphe 5 et 6. Nous devons lutter pour atteindre dans notre sphère d'activité la perfection que Christ a réalisée pendant sa vie terrestre dans tous les aspects de son caractère. Il est notre exemple. En toute chose, nous devons chercher à honorer Dieu par notre caractère. Nous sommes entièrement dépendants de la puissance qu'il a promis de nous donner. Jésus n'a montré aucune qualité et n'a exercé aucun pouvoir que l'homme ne soit capable d'obtenir par la foi en lui. Tous ses disciples peuvent atteindre à son humanité parfaite s'ils veulent se soumettre à Dieu comme il l'a fait. Donc, ça éclaircit cette réalité de l'appel de Dieu pour notre perfection. Nous devons lutter pour atteindre dans notre sphère d'activité la perfection que Christ a réalisée pendant sa vie terrestre dans tous les aspects de son caractère. Être parfait dans notre sphère d'activité comme Dieu est parfait dans sa sphère. Parfait en proportion avec nos opportunités et nos tentations pour vaincre ce qui vient à nous, de la même manière que Jésus a vaincu ce qui est venu et qui s'est présenté à lui. Et on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là parce que il y a quelque chose de particulier, frères et sœurs. C'est que dans cet appel à la perfection, si nous sommes vraiment diligents, vraiment attentionnés, attentifs à ces choses que le Seigneur essaie de nous communiquer et par lesquelles il essaie de nous mener vers cette perfection, si nous sommes fervents, si nous sommes attentifs, eh bien, nous allons faire une expérience dans ce cheminement vers la perfection qui est, on ne peut plus, déconcertante. Et c'est la raison de notre méditation aujourd'hui, c'est que nous puissions comprendre ce qui nous arrive et réaliser que nous sommes quand même sur ce cheminement, quand bien même nous faisons face et nous expérimentons et nous faisons l'expérience de vents contraires, pas simplement à l'extérieur, mais à l'intérieur même. Parce que lorsque Dieu dit, lorsque Jésus dit, soyez donc parfaits, à qui s'adresse-t-il? À des personnes imparfaites, à des personnes ayant des défauts, à des personnes ayant fait des erreurs, à des personnes qui même sont encore esclaves de mauvaises habitudes. Mais Dieu et Jésus nous appellent. Ils nous appellent. Et c'est pour ça que maintenant, j'aimerais attirer votre attention vers ce passage, ces passages très imagés que l'on trouve dans Ézéchiel, où nous voyons Dieu qui parle de son peuple en ces derniers jours et qui mentionne, qui parle d'eux sous le nom d'Israël. Comme nous voyons dans Jacques chapitre 1, verset 1, où l'apôtre Jacques s'adresse aux chrétiens dispersés et dit aux 12 tribus dispersées, salut. Donc, les tribus étaient dispersées littérales, les tribus littérales de l'Israël physique étaient dispersées il y a bien longtemps, mais il s'adresse ici aux chrétiens et leur dit, vous êtes ces 12 tribus. Et ici, ça nous permet de comprendre de qui Dieu parle ici. Dans Ézéchiel chapitre 6 et verset 8 à 10. Parce que, vous vous souviendrez, ce peuple du troisième ange, ce sont un reste. Ils sont le reste Parce que après ce message d'Apocalypse chapitre 18, qui n'est autre que le message de 1888 de Christ et sa justice, leurs rangs s'amoindrissent et s'amincissent. Et cela continue jusqu'à ce message de Apocalypse chapitre 18 verset 4 où leurs rangs s'amincissent et s'amoindrissent encore, où il y a cet autre mouvement qui dit « Sors du milieu d'elle, mon peuple !» Et donc Dieu ici, il parle dans Ézéchiel chapitre 6 verset 8 et il dit « Pourtant, au milieu de toutes ces dispersions des personnes qui professent croire en Dieu, qui professent être disciples de Jésus-Christ, au milieu de tout cela, il laisse un reste. Et il dit, « Pourtant, je laisserai un reste d'entre vous, réchappés de l'épée parmi les nations, quand vous serez dispersés en divers pays. » Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère qui s'est détourné de moi, ainsi que leurs yeux qui se sont prostitués avec leurs idoles. Ils se prendront même en dégoût pour tout ce qu'ils auront fait de mal, pour toutes leurs abominations. Alors ils sauront que je suis l'Éternel et que ce n'est point en vain que je les avais menacés de tous ces maux. » Et vous allez maintenant dans Ézéchiel chapitre 20. C'est important que vraiment on laisse l'Esprit Saint appliquer ces paroles. Qu'on ne s'embrouille pas nous-mêmes en essayant d'appliquer ces choses-là à d'autres personnes. Parce que cela, c'est vraiment, Dieu nous donne vraiment cela pour que l'on arrive à comprendre combien il a décrit, combien il a décrit notre expérience présente à travers la parole de Dieu. Et ici, dans Ézéchiel chapitre 20, versets 34 à 37, nous lisons: Je vous ferai sortir d'entre les peuples, je vous rassemblerai des pays dans lesquels vous avez été dispersés à main forte, à bras étendus et avec effusion de colère. Et je vous amènerai dans le désert des peuples. Et là, j'entrerai en jugement avec vous, face à face, comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement. Le jugement investigatif, il est ici, regardez. Ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Puis je vous ferai passer sous la verge et vous ferai rentrer dans les liens de l'Alliance. Et verset 43, là vous vous souviendrez de vos voies et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de tout ce que vous aurez fait de mal. C'est très intéressant là, parce qu'il ne parle pas à des personnes qu'il a rejetées, il parle à des personnes qu'il fait rentrer dans l'Alliance et il leur dit « En ce moment-là où je vous aurai fait tout cela, que je vous aurai pris comme un reste d'entre tous les pays, un reste à moi et que je vous aurai ramené à ce pays qui est Sion. » Rappelez-vous, Sion, comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 11. Nous maintenant, Dieu nous ramène à l'église dans le ciel, à Sion, par la foi, nous devenons citoyens du ciel. Et il dit, dans ce contexte-là, de ce rapprochement par le sang de Jésus à Dieu et à l'église dont les noms sont écrits dans le ciel, dans ce contexte-là, vous allez vous retrouver et vous allez vous souvenir de vos voies. Et vous allez discerner en ce temps du jugement toutes ces choses que vous aviez fait de mal et que vous, peut-être, vous avez encore l'habitude de faire de mal, vous allez, dans ce temps du jugement, discerner. Et nous continuons dans Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel 36, versets 22 à 27. Et puis versets 29 et 31. Où il dit, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Je n'agis pas de la sorte à cause de vous, maison d'Israël, mais à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. Et verset 29, je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le froment et je le multiplierai, je ne vous enverrai plus la famine. Verset 31. Vous vous souviendrez alors de votre mauvaise voie et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous aurez horreur de vous-même à cause de vos iniquités et de vos abominations. Mais rappelez-vous ce qu'il a dit. Et les nations sauront que je suis l'Éternel quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Donc il leur dit, voilà, je vais vous prendre comme un reste parmi les nations. Je le fais par amour pour mon saint nom. Pas parce que vous êtes dignes, mais parce que j'ai opéré en votre faveur à cause de mon amour. Et il dit pas, bon maintenant, vous allez voir, vous souvenir de votre mauvaise voie, et donc je ne veux plus de vous. Il dit, vous avez profané mon saint nom, mais les nations sauront que je suis l'Éternel quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Parce qu'il nous amène dans les liens de l'Alliance. Il veut nous communiquer sa perfection. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il dit? Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Voilà notre cheminement notre parcours vers la perfection. Et c'est merveilleusement exprimé dans ce passage de l'esprit de prophétie dans le livre « Vers Jésus » à la page 98, paragraphe 1 et suivant. Nous lisons ceci. Écoutez bien, frères et sœurs, c'est très intéressant. Très intéressant, ça nous permet de distinguer, de discerner que si nous faisons une certaine expérience, que nous sommes troublés intérieurement, et que nous nous posons des questions, ça ne veut pas dire que nous ne sommes plus sur ce chemin. Mais comme nous venons de lire, cela fait partie du cheminement. Je lis ici, vers Jésus, page 98, ceci. Il est des personnes qui ont appris à connaître l'amour et le pardon de Christ et qui désirent sincèrement être des enfants de Dieu. Toutefois, elles voient les imperfections de leur caractère et les insuffisances de leur vie, et elles en viennent à douter de la réalité de leur régénération par le Saint-Esprit. Elles voient leurs imperfections de caractère, comme on l'a vu ici, vous vous souvenez? Vous vous souviendrez alors de vos mauvaises voies. Il dit, ça va vous arriver. Ça fait partie du processus. Vous vous souviendrez alors de votre mauvaise voie et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Il y a des personnes qui ont appris à connaître l'amour et le pardon de Christ et qui désirent sincèrement être des enfants de Dieu. Toutefois, elles voient les imperfections de leur caractère et les insuffisances de leur vie. Et elles en viennent à douter de la réalité de leur régénération par le Saint-Esprit. Je leur dirais, ne vous laissez pas abattre. Nous devrons souvent nous prosterner aux pieds de Jésus pour y venir pleurer sur nos manquements et nos erreurs. Mais ce n'est pas une raison pour nous laisser aller au découragement. Même si nous sommes vaincus par l'ennemi, nous ne sommes pas repoussés, délaissés, ni rejetés par Dieu. Non. Christ est à la droite de Dieu. Et il intercède en notre faveur. Le disciple bien-aimé disait, « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et n'oubliez pas ces paroles du Sauveur. Le Père lui-même vous aime. Il désire vous ramener à lui et voir reproduite en vous sa pureté et sa sainteté. Si seulement vous consentez à vous remettre entre ses mains, celui qui a commencé en vous la bonne œuvre la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Priez avec plus d'ardeur. Croyez avec plus d'assurance. À mesure que nous nous défions de nos propres forces apprenons à nous confier en celle de notre Rédempteur. Et nous louerons celui qui est le salut de notre visage. Plus vous vous approcherez de Jésus, plus vous vous rendrez compte de vos lacunes, car votre vision spirituelle sera plus claire et vos imperfections offriront un contraste de plus en plus frappant avec la perfection de sa nature. C'est la preuve que les charmes de Satan ont perdu leur puissance et que l'influence vivifiante de l'Esprit de Dieu vous tire de votre léthargie. Donc, qu'est-ce que vous en retirez de cela? De ce qu'on nous dit ici? Si vous vous rendez compte de vos imperfections, de vos lacunes, qu'elles se présentent à vous comme un vif contraste avec la pureté de Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que vous êtes loin de lui? Ou est-ce que cela veut dire autre chose? Ça veut dire que vous vous rapprochez de lui. Si nous ne sentons pas, comme c'est écrit après, je ne l'ai pas ici, mais l'esprit de prophétie nous dit que si nous ne sentons pas notre péché, notre condition de péché, alors c'est une preuve que nous sommes loin de Dieu. Mais si nous ressentons cette condition, alors c'est une preuve. C'est la preuve que les charmes de Satan ont perdu leur puissance et que l'influence vivifiante de l'Esprit de Dieu vous tire de votre léthargie. Il vous tire de cet esprit laodicéen. Et vers où vous tire-t-il? Vers l'agneau. Il vous mène vers l'agneau, il dit, Dieu dit, l'Esprit dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Plus vous vous approcherez de Jésus, plus vous vous rendrez compte de vos lacunes, car votre vision spirituelle sera plus claire et vos imperfections offriront un contraste de plus en plus frappant avec la perfection de sa nature. Donc vous, si vous étudiez, vous voulez connaître la perfection de Dieu, vous voulez être assimilé à cette perfection, qu'est-ce qui va vous arriver? À mesure que vous vous approchez de Jésus, qui est la manifestation de cette perfection de Dieu à laquelle nous sommes appelés, nous allons avoir un sentiment de plus en plus vif de notre condition de pécheur. C'est ça, frères et sœurs. Et donc, si ça nous arrive, Ellen White disait à ces personnes-là qui doutent de leur régénération par le Saint-Esprit, parce qu'elles ont ces sentiments d'une condition abjecte, à ces personnes-là, elle dit, je leur dirais, ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre, vous êtes proche de lui, vous êtes proche. elle nous dit, son conseil, le conseil de l'esprit de prophétie, nous devrons souvent nous prosterner aux pieds de Jésus pour y venir pleurer sur nos manquements et nos erreurs. Mais ce n'est pas une raison pour nous laisser aller au découragement. Non, ce n'est pas une raison. Parce que nous nous approchons, il faut que nous continuions à nous approcher. Et à mesure que nous continuons à nous approcher, qu'est-ce qui se passera? Nous nous rendrons compte plus encore de nos lacunes. Et notre vision spirituelle accrue par ce rapprochement, elle nous fera discerner nos imperfections en contraste de plus en plus frappant avec la perfection de sa nature. Et donc, ça nous dirige maintenant vers le passage de Proverbes chapitre 24. Proverbes chapitre 24. Vous savez, c'est essentiel que l'on comprenne ça, frères et sœurs. Parce que aujourd'hui, l'esprit qui régit dans les assemblées, c'est que si vous avez cet esprit de contrition, si vous avez cet esprit d'amour pour Dieu qui est brisé à la vue de tous vos petits péchés qui se présentent en contraste si vif avec l'amour, la pureté, la sainteté de Jésus, l'esprit qui régie, qui domine, c'est que on ne veut pas. On va vous dire que vous allez trop loin, vous allez dans les extrêmes, ne vous chagrinez pas trop à cause de ces choses. Vous comprenez? Mais l'esprit de prophétie ne dit pas cela. L'esprit de prophétie ne dit pas que nous n'ayons pas un esprit contrit. Elle dit, ne vous laissez pas abattre. Mais continuons à regarder à lui. Il faut continuer à regarder à lui. Et vaincre ces sentiments du cœur humilié, les vaincre, et du cœur découragé, les vaincre par la vision de l'amour de Dieu. Comme c'est écrit, si nous avons lu, le Père lui-même vous aime. Il ne faut pas régler cette condition de l'âme en abandonnant le message, en abandonnant l'appel à la perfection, mais en l'embrassant plus encore, parce que nous y trouvons, le plus nous nous approchons de cet appel, le plus nous nous approchons de l'amour de Dieu. Et donc ici, dans Proverbes, chapitre 24, verset 16, nous voyons le conseil inspiré de la parole de Dieu qui nous permet de discerner où nous nous trouvons sur notre cheminement à la lumière de nos imperfections. Proverbes 24, verset 16, « Car le juste... » Il s'agit du juste ici, remarquez, hein, la personne qui est justifiée par la foi, car le juste tombera sept fois et il sera relevé. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Il n'y a pas écrit le juste ne tombera jamais. Il a écrit, le juste tombera sept fois. Sept fois, le chiffre de la perfection, il tombera sept fois, et il sera relevé. Donc Dieu va... Dieu nous montre ici qu'il ne s'agit pas de prouver que nous sommes enfants de Dieu en ayant cette impression que nous ne faisons aucune erreur, mais que lorsque nous tombons, lorsque nous faisons une erreur, lorsque nous péchons, quoi? Nous avons un avocat auprès du Père. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons relevés. Nous allons nous relever, à la différence du méchant qui est précipité dans le malheur. Il se précipite dans le mal. Il faute, et au lieu de tourner les yeux vers Dieu, de chercher une espérance, il abandonne et il fait pire encore. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ça la condition du juste. Le juste ne raisonne pas comme cela. Le juste craint Dieu. Le juste aime Dieu. Et le juste veut se conformer aux appels, aux exigences, aux attentes de la parole de Dieu. Et donc, le juste tombe, mais il se relève. Il se relève. Alors que le méchant se précipite dans le mal. Le méchant n'a pas le cœur brisé. Le méchant ne se pose pas des questions pour savoir si cela est bien ou si cela est mal. Il n'est pas torturé par ses affections pour Dieu, pour un idéal élevé. Non, le juste n'est pas comme cela. Et ici, j'aimerais qu'on lise une déclaration vraiment magnifique de l'esprit de prophétie. Elle se trouve dans le ministère de la guérison, à la page 138 et au paragraphe 3. Ministère de la guérison, page 138 et au paragraphe 3. Il faut faire comprendre à tous ceux qui sont tombés qu'il n'est pas trop tard pour eux d'être des hommes. Christ honorait l'homme de sa confiance et le mettait ainsi dans l'obligation d'être fidèle à sa parole. Il avait de la considération même pour les plus bas tombés. La haine, la dépravation, l'impureté était pour lui un sujet continuel de souffrance. Mais il ne laissait jamais échapper une parole qui aurait pu montrer que sa sensibilité était choquée ou ses goûts offensés. Quelles que fussent les mauvaises habitudes, la ténacité des préjugés ou les passions dominantes des êtres qui l'entouraient, il les recevait tous avec pitié et avec tendresse. Lorsque nous sommes animés de son esprit, nous considérerons tous les hommes comme nos frères, ayant les mêmes tentations et les mêmes épreuves que nous, tombant souvent et essayant avec peine de se relever. Luttant contre le découragement et les difficultés, avides d'aide et de sympathie. Alors, nous nous approcherons d'eux en prenant garde de ne jamais les décourager ni les repousser, mais en nous efforçant d'éveiller l'espoir dans leur cœur. Ainsi pourront-ils dire avec confiance, elle cite Michée chapitre 7 verset 8 à 9. Écoutez bien. Ainsi pourront-ils dire avec confiance, ne te réjouis pas à mon sujet, toi mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Il défendra ma cause et me fera droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Vous voyez ce merveilleux caractère de Jésus, la façon dont il réagit à nos faiblesses et dont il nous approche dans nos manquements et nos imperfections. Qu'est-ce qui est marqué? Quelles que fussent les mauvaises habitudes, quelle que fussent la ténacité des préjugés ou les passions dominantes des êtres qui l'entouraient, il les recevait tous avec pitié et avec tendresse. Voilà comment Jésus nous reçoit. Lorsque nous sommes et que nous ressentons nos manquements et que nous sommes en train et nous sommes tentés de douter que nous avons jamais été régénérés par le Saint-Esprit, il nous reçoit avec pitié, avec tendresse, et il nous invite à mettre notre confiance en lui. Qu'est-ce que c'était? Christ honorait l'homme de sa confiance. Il le mettait ainsi dans l'obligation d'être fidèle à sa parole. Il mettait l'homme dans l'obligation d'être fidèle à sa propre parole. Il nous voit de notre faiblesse, de nos imperfections, et il ne nous condamne pas, mais sachant que notre cœur est désireux de faire sa volonté, quand bien même nous avons fauté, il nous honore de sa confiance et nous encourage ainsi à être fidèle à notre propre parole, quand nous prions à lui à joindre à la fois nos désirs et nos actions, nos aspirations et nos actes concrets dans notre vie de tous les jours. Voilà comment Dieu agit avec nous et comment il encourage notre relèvement. Vous voyez? Quelle est cette parole qu'il met sur nos lèvres par laquelle nous relèvons comme ce juste qui tombe cette fois mais se relève? Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Il défendra ma cause et me fera droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Voilà ces paroles d'encouragement, d'assurance et d'amour que Dieu place sur nos lèvres lorsque nous avons commis des fautes, mais que notre cœur est toujours désireux de marcher sur ce sentier qui mène à la perfection pour être parti de ces 144 000. Vous comprenez? Et donc maintenant, nous lisons cette fameuse déclaration de notre lecture biblique dans Proverbes chapitre 4 et verset 18. Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat augmente jusqu'à ce que le jour soit dans sa perfection. Comment est le sentier des justes? Ils auront beau tomber sept fois, ils se relèveront et leur sentier sera comme la lumière resplendissante dont l'éclat augmente jusqu'à ce que le jour soit dans sa perfection. Ils se relèveront et Dieu les conduira à la lumière. Et dans leurs ténèbres, même dans leurs ténèbres, l'Éternel sera notre lumière. Et quelle est cette Quelle est cette lumière qui rend le sentier des justes si lumineux et plein d'espoir? Là, ici, nous lisons, l'Éternel sera ma lumière. L'Éternel me conduira à la lumière. Et qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que c'est concrètement? Allez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Dieu, dans Genèse, nous lisons que Dieu, il a fait naître la lumière des ténèbres, n'est-ce pas? Et ici, l'apôtre, il compare cela à notre cœur. Notre cœur, c'est l'obscurité. Alors, notre cœur est ténébreux par nature. Mais celui qui a fait, qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est lui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de quoi? De la connaissance, de la gloire, du caractère, de l'amour de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Donc Dieu fait briller en nous cette lumière. Et c'est à nous d'embrasser cette lumière et de vivre en harmonie avec tout ce qu'elle nous révèle de la perfection de Dieu qui nous appelle à imiter. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et donc, maintenant, cela nous montre, nous avons vu que c'est Jésus qui est cette lumière pour nous et qui éclaire nos ténèbres et qui nous encourage à continuer notre cheminement, qui met ses paroles sur nos lèvres pour nous faire obtenir la victoire sur nos imperfections. Et donc, dans la continuité maintenant de notre parcours vers la perfection, nous lisons ce passage de Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 15. Philippiens, chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son plaisir. Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de vie. Donc comment est-ce que nous pouvons cheminer vers cette condition à laquelle nous sommes appelés? C'est écrit ici, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Quelle crainte? Crainte que nous reprenions notre marche sur le sentier sur lequel nous avions autrefois marché, le sentier des mauvaises habitudes, de nos mauvaises actions et de nos corruptions. Que nous travaillions à notre salut avec crainte et tremblement, de peur que nous ne regardions pas à Dieu dans chacun des pas que nous faisons dans notre marche spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son plaisir. C'est lui qui fait briller cette lumière en nous. Et donc, il nous demande de travailler avec lui, de coopérer avec lui dans cette œuvre où il cherche à nous mener à ce caractère de Jésus-Christ, celui qui garde les commandements de Dieu par cette foi de Jésus. Et nous sommes appelés à faire cela afin que nous puissions être sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu de cette génération présente, dépravée et perverse. Voilà notre appel, frères et sœurs. Et puissions-nous prendre courage, donc, prendre courage de ne pas placer notre espérance dans l'homme et de réaliser aussi que lorsque nous nous sommes appuyés sur la chair, appuyés sur nos capacités, appuyés sur notre propre orgueil, appuyés sur nos propres accomplissements, et que cela nous a failli, parce que en réalité, ce n'était pas digne de notre appui et de notre confiance, et que nous avons perdu notre équilibre à ce moment-là. Toutes ces choses, Dieu nous les présente. Et donc c'est pour ça, pour terminer ici, je vous lis ce passage de l'Esprit de prophétie dans Conquérant Pacifique, à la page 475, paragraphe 4 à 6. L'admirable possibilité de devenir comme Christ, obéissant à tous les principes de la loi, est offerte à chaque croyant. Mais par lui-même, l'homme est absolument incapable de parvenir à cet état. La sainteté à laquelle il doit arriver pour obtenir le salut, comme le déclare la parole de Dieu, est le résultat de la grâce divine dans la mesure où il se soumet à la discipline et aux influences contraignantes de l'esprit de vérité. L'obéissance de l'homme ne peut être rendue parfaite que par le parfum de la justice de Christ, qui remplit chaque acte d'obéissance d'une odeur divine. Le rôle du chrétien est de persévérer pour surmonter ses penchants. Il doit prier sans cesse le Sauveur de guérir son âme malade et contaminée par le péché. Il ne possède ni la sagesse, ni la force qui lui permettrait de triompher. Ses vertus appartiennent à Dieu qui les accorde à tous ceux qui, le cœur contrit et humilié, implorent son secours. L'œuvre de transformation qui se fait chez le pécheur pour le mener de l'impiété à la sainteté est permanente. Jour après jour, Dieu travaille à la sanctification du chrétien, mais celui-ci doit collaborer avec lui, s'efforcer de cultiver avec persévérance de bonnes habitudes et s'attacher à ajouter grâce sur grâce. Tandis qu'il opère ainsi sur le plan de l'addition, Dieu, lui, se livre à un travail de multiplication. Notre Sauveur est toujours prêt à entendre les prières et à y répondre si elles sont formulées par un cœur contrit. Et il fait abonder sa grâce et sa paix parmi ses fidèles. C'est joyeusement qu'il leur accorde les bénédictions qui leur sont nécessaires pour lutter contre le mal qui les assaille. Donc l'œuvre de transformation, elle est continue, et jour après jour, Dieu travaille à notre sanctification, et nous devons collaborer avec lui. Nous devons nous efforcer de cultiver avec persévérance de bonnes habitudes et nous attacher à ajouter grâce sur grâce. Il ne s'agit pas ici d'obtenir le salut par les œuvres, non. Nous travaillons, nous opérons sur le plan de l'addition. Nous efforçons d'être parfaits dans notre sphère d'activité. Vous vous souvenez? Dieu nous dit « Soyez parfaits, comme votre Père qui est au ciel est parfait. » Et nous sommes appelés, l'apôtre nous dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son plaisir. » Et donc, nous devons collaborer avec lui, avec ce qu'il travaille en nous, qu'il produit en nous par sa grâce. Nous travaillons sur le plan de l'addition. Et Dieu, lui, se livre en notre faveur à un travail de multiplication. Lui, par son esprit, il nous donne la capacité et nous sommes appelés à placer notre volonté. Vous comprenez? Donc c'est bel et bien notre appel. L'appel à la perfection. Et la lumière, le sentier des justes, est comme la lumière resplendissante qui brille de plus en plus jusqu'à ce que le jour soit dans sa perfection. Le jour dans sa perfection. Lorsque nous tenons avec l'agneau sur la montagne de Sion. Donc voilà, frères et sœurs. Puissions-nous nous engager avec plus de ferveur et trouver cette lumière dans nos ténèbres. Et donc, lorsque nous ressentons ces vagues de découragement, nous comprendrons. Elles viennent à cause de nos propres manquements, mais même dans ce contexte, Dieu, il ne nous repousse pas, il ne nous rejette pas, mais il nous reçoit avec pitié et avec tendresse. C'est lui l'agneau que nous voulons imiter dans nos relations avec les autres. Et nous voulons regarder à lui. À chaque fois que ces choses se trament dans nos esprits pour comprendre où est-ce que nous mettons notre espérance et que notre assurance, elle soit affermie dans le sens et le fait que Dieu, il nous reçoit et il est prêt à nous relever pour nous mener à la perfection. Voilà, puisse le Seigneur bénir ses pensées dans nos cœurs et jusqu'à ce que l'on se revoie, que le Seigneur vous bénisse. Amen.